Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, le syndrome de Cushing. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Chabre. Professeur Chabre, bonjour.
Bonjour.
Professeur Chabre, vous êtes endocrinologue, professeur des universités à la faculté de médecine de Grenoble et praticien hospitalier au sein du service d'endocrinologie et diabétologie du CHU de Grenoble-Alpes. Au sein du service, vous êtes également responsable du centre de compétences des maladies rares de l'hypophyse et vous avez participé à la rédaction du PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur le syndrome de Cushing. Alors, professeur Chabre, ma première question est très simple. Quelles sont les manifestations cliniques qui doivent faire évoquer un syndrome de Cushing?
C'est une question importante, c'est bien sûr la première question, en sachant que le syndrome de Cushing a la particularité de présenter beaucoup de signes, mais dont peu sont spécifiques. Et une particularité importante, c'est qu'il ressemble beaucoup à une pathologie qui est très commune, qui s'appelle le syndrome métabolique, où les patients ont une obésité essentiellement abdominale et ils peuvent avoir de l'hypertension et du diabète. Et toutes ces manifestations peuvent aussi se voir dans le syndrome de Cushing. Du coup, quand on évoque un syndrome de Cushing, il faut essayer de chercher les signes qui sont plus spécifiques du syndrome de Cushing. Et déjà, il y a quelque chose qui est important, c'est que le syndrome de Cushing a beau être une maladie rare, en fait, beaucoup de praticiens le connaissent bien sans le savoir, puisque le syndrome de Cushing n'est rien d'autre que l'ensemble des effets indésirables d'un traitement corticoïde au long cours. Et la première cause du syndrome de Cushing, c'est les patients qui prennent des corticoïdes au long cours. Donc les signes plus spécifiques, c'est que l'obésité, elle a une répartition un peu particulière, elle est souvent pas majeure, mais elle prédomine dans la partie supérieure du corps, avec un visage qui est arrondi et par ailleurs rouge, ce qui est déjà un signe assez sensible. Ensuite, la plus grande spécificité des signes, c'est sur ce qu'on appelle les signes cataboliques. Faire trop de cortisol, ce qui est la caractéristique de ce syndrome de Cushing, ça fragilise beaucoup de tissus, la peau, les muscles et les os. Au niveau de la peau, les patients plutôt jeunes peuvent avoir des vergetures pourpres et larges. Les patients un peu plus âgés ont des signes de fragilité cutanée autres qui sont les ecchymoses, les pétéchies. Et puis ils ont une peau qui est très fine. À 40 ans, vous vous retrouvez avec une peau de quelqu'un qui a 60-70 ans. Il y a une fonte des muscles, en particulier au niveau des quadriceps. Et puis il peut y avoir une ostéoporose, déjà symptomatique, qui peut arriver quand on diagnostique un syndrome de Cushing chez des patients qui ont déjà plusieurs tassements vertébraux, par exemple. Et donc, vraiment, la spécificité doit se faire sur cette recherche de signes cataboliques au niveau de la peau, des muscles et des os, chez des patients qui, par ailleurs, ressemblent à des patients très communs qui ont un syndrome métabolique.
Alors, à vous entendre, il y a pas mal de symptômes qui sont assez peu spécifiques et qui sont souvent une cause d'errance diagnostique. Qu'en est-il en France de cette errance diagnostique ?
Oui, alors ça, on connaît tous bien. Lorsque vous demandez au patient où finalement vous avez fait un diagnostic de syndrome de Cushing, combien de médecins il a vu auparavant avec ces symptômes, on avait même calculé ça une fois dans une publication, c'est 4 ou 5 médecins spécialistes. C'est des gens qui vont des fois avoir contacté un cardiologue pour l'hypertension, un rhumatologue pour l'ostéoporose, voire un psychiatre pour leur dépression. Dans la mesure où les symptômes ne sont pas spécifiques, si les médecins concernés n'ont pas un peu l'habitude de syndrome, ils ne vont pas comprendre que la plainte du patient se situe dans un contexte global qui doit faire évoquer cela. Et du coup, la principale cause d'errance diagnostique, c'est de ne pas faire le diagnostic positif au début. Après, une autre errance seront les patients qui mériteraient un traitement spécialisé et qui n'ont pas, et je pense en particulier aux patients qui ne se voient pas offrir de chirurgie hypophysaire alors qu'un très bon chirurgien pourrait les guérir. Mais la principale cause d'errance est celle qui doit concerner tous les médecins et de reconnaître le syndrome au départ avec les outils qu'on a donnés, en se rappelant quand même d'une idée simple, ces patients ressemblent tous à des patients qui prennent des corticoïdes au long cours et quelque part, on a en mémoire, nous médecins, la présentation des patients qui prennent des corticoïdes de long cours, donc il faut penser à ça.
Et pour affirmer le diagnostic maintenant, quels sont les examens de première ligne à réaliser ?
Très souvent, les gens vont faire le raisonnement simple, je cherche une maladie où il y a trop de cortisol, je dose le cortisol. Et en fait, ce réflexe simple, il faut vraiment l'éviter, parce que la plupart des causes de syndrome de Cushing font que les patients, le matin, auront un taux de cortisol strictement normal. Alors, comment est-ce possible d'avoir des signes qui traduisent qu'on a trop de cortisol ? Et avoir un cortisol normal le matin, ben c'est très simple. Les sujets qui n'ont pas de pathologie sur la surrénale ou l'hypophyse, ils ont un taux de cortisol qui est maximum le matin et ensuite il ne fait que décroître le reste de la journée. En gros, nos surrénales fonctionnent surtout en fin de nuit et le matin, puis après elles s'arrêtent tranquillement. Pour avoir un syndrome de Cushing, il suffit de continuer à fabriquer du cortisol au même taux que ce que vous avez le matin, sans baisser. Vous n'avez jamais un taux de cortisol plus élevé que le matin, mais Au total, sur 24 heures, l'air sous la courbe de la concentration du cortisol est beaucoup plus élevé, vous fabriquez beaucoup plus de cortisol. Et la plupart des patients qui ont un syndrome de Cushing ont justement un taux de cortisol qui ne va jamais être au-dessus de la norme du matin. Donc, doser le cortisol le matin, c'est le pire moment. C'est le moment où vous pouvez rater les patients. Et nous, on a l'expérience de plusieurs patients dont le diagnostic a été retardé de 5 ans parce qu'un médecin, une fois, y a pensé, ce qui était bien, a dosé le cortisol le matin, ce qui n'était pas bien, a vu qu'il était normal et a abandonné sa bonne idée. Donc, il faut absolument proscrire cet examen et il faut penser à 3 examens de première intention qu'il faut apprendre, ce n'est pas très compliqué. Le cortisol libre urinaire qui consiste à demander au patient de faire un recueil urinaire de 24 heures pour que soit dosé le cortisol dessus est un très bon examen car le taux de cortisol que vous avez dans les urines reflète le taux moyen du cortisol libre plasmatique. C'est un examen qui est très performant mais qui dépend de la qualité du recueil urinaire des patients et ce n'est pas si facile que ça, garder ses urines pendant 24 heures. Deuxième examen de première ligne, c'est de montrer que justement le cortisol il va être plus élevé à un moment où chez le sujet normal il est bas, donc au coucher, hein, vers 11h minuit. On peut faire un prélèvement pour doser le cortisol, mais bien sûr une prise de sang, ça imposerait d'aller au laboratoire, ce qui n'est pas possible, ou d'être hospitalisé, ce qui est dommage pour un test de première intention. En fait, il est possible de doser le cortisol sur la salive, et le cortisol salivaire au coucher, qui est trop élevé chez les patients porteurs d'un syndrome de Cushing, est un très bon examen. Et le troisième examen de première ligne, alors c'est un mini-test, mais il n'est pas très compliqué, et il est tout à fait faisable par des non-spécialistes, ils l'ont compris. On va demander au patient de prendre 1 mg de dexaméthasone le soir au coucher à 23h et le lendemain matin, il fera doser son cortisol le matin à 8h, mais après ce freinage par cette petite dose de corticoïdes à longue durée d'action. Ce test de freinage à 1 mg, qui pour le patient demande juste de prendre des comprimés au coucher et de faire une prise de sang le lendemain matin, est très performant aussi pour identifier les patients dont le cortisol ne va pas baisser parce qu'ils ont une cause d'hypercortisolisme.
Et ensuite, professeur Chabre, lorsqu'un hypercortisolisme a été confirmé, comment identifier son origine ?
Donc, si on a passé la première étape, c'est-à-dire que soit on a un de ces 3 tests de première ligne franchement anormal, soit éventuellement 2 si on a un doute, on considère qu'il y a hypercortisolisme. Et la question qui va venir après, c'est d'où vient la fabrication de cortisol ? En sachant qu'il y a 2 grands cadres, soit ça vient des glandes surrénales elles-mêmes, et à ce moment-là, l'hypophyse par rétrocontrôle sera freinée, l'ACTH sera basse, on appelle ça des causes d'hypercortisolisme ACTH indépendant. Soit au contraire, les surrénales n'ont pas de maladie, mais elles sont trop stimulées par de l'ACTH qui peut venir le plus souvent de l'hypophyse, d'une tumeur bénigne de l'hypophyse qui s'appelle un adénome corticotrope. Il s'agit de la maladie de Cushing ou plus rarement d'une tumeur qui n'est pas dans l'hypophyse et qui fabrique de l'ACTH. Pour différencier les causes d'hypercortisolisme ACTH indépendant, c'est-à-dire surrénalien, ou ACTH dépendant, ça veut dire le plus souvent hypophysaire et beaucoup plus rarement extra-hypophysaire, il suffit de doser l'ACTH. Si l'ACTH est très basse, vous avez une pathologie surrénalienne, on fera un scanner surrénalien qui permettra de la trouver. Si l'ACTH n'est pas basse ou est élevée, c'est ACTH dépendant et à ce moment-là, viendra la dernière question qui est de savoir si c'est ACTH dépendant, est-ce que c'est dans l'hypophyse, c'est quel cas le plus souvent, ou pas dans l'hypophyse. Pour cela, il y a plusieurs examens envisagés. Un des examens, c'est la morphologie, l'IRM hypophysaire, qui a ses limites, puisque l'IRM hypophysaire n'est pas toujours capable de voir ces adénomes corticotropes qui des fois sont très petits, et même avec les IRM les plus performantes, nous avons montré récemment qu'il y a encore 30% de patients qui ont bien une pathologie hypophysaire pour laquelle l'IRM ne voit rien. Il y a aussi des tests hormonodynamiques sur lesquels je vais glisser parce qu'ils sont un peu compliqués, mais qui peuvent orienter plutôt vers une tumeur hypophysaire qu'une tumeur extra-hypophysaire. Et puis, dans les cas difficiles, il y a une exploration un peu complexe que nous maîtrisons bien dans notre centre qui s'appelle le cathétérisme des sinus pétreux inférieurs qui va aller doser directement au sang veineux proche de l'hypophyse pour savoir si la concentration de la CTH est plus élevée à ce niveau-là que sur une veine périphérique de référence. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on peut démontrer qu'un patient a un hypercortisolisme d'origine hypophysaire, même si on ne voit rien à l'IRM hypophysaire.
Et pour conclure, professeur Chabre, si l'origine est bien hypophysaire, ce qui est le cas le plus fréquent, quels sont les grands principes de prise en charge qu'on peut proposer à ces patients ?
Vous avez vu dans la question précédente qu'on s'acharne un peu à savoir, lorsque c'est ACTH dépendant, si c'est dans l'hypophyse ou pas. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne ? Eh bien, c'est que si c'est dans l'hypophyse, la première indication de traitement, c'est d'aller proposer une intervention par un neurochirurgien expert qui fait une intervention transsphénoïdale avec un abord par voie nasale qui maintenant se fait par voie endoscopique et très peu traumatisante. C'est une intervention qui n'est pas très lourde pour les patients, qui est bien sûr très minutieuse et qui entre de bonnes mains à un taux de succès qui est de 80 à 90%. Et dans notre série, nous avons montré que même si les patients n'ont pas de tumeur visible à l'IRM, le taux de succès est encore à 75%, ce qui fait qu'en première intention, le traitement chirurgical pour nous est toujours à considérer. Si le traitement chirurgical n'est pas efficace, les rares patients qui ne seront pas guéris ou les rares patients qui ne peuvent pas être opérés, il y a à ce moment-là d'autres solutions médicales avec des médicaments qui soit vont empêcher la surrénale de faire trop de cortisol, soit des médicaments qui essayent de contrôler la sécrétion d'ACTH par l'adénone. Ces médicaments ont une efficacité variable, des effets indésirables variables, ils peuvent donner des bons résultats, mais la guérison est quand même de moins bonne qualité que lorsqu'on enlève la cause de la maladie, qui est l'adénome hypophysaire. C'est pour cela que nous, on est très partisans de cette chirurgie hypophysaire.
Eh bien, merci infiniment, professeur Chabre, de nous avoir éclairé sur le syndrome de Cushing. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.